Pour la prochaine demi-heure, on s'intéresse à la période d'adolescence qui est pas toujours facile pour certains parents. Il y en a qui vont craindre cette période. Pour qui ça va être extrêmement difficile, pour d'autres, ça va se faire de façon très simple, comme si c'était rien passé ou à peu près. Mais il y en a pour qui, bon, on va parler d'hormones, on va parler de maturité. Il va y avoir des troubles, des crises, de la gestion également avec les parents, confrontation également. Et si bien qu'il y a même des parents qui vont décider de lâcher prise, qui vont dire, ben, écoute, je suis tellement tannée, il est rendu à 16-17 ans. On n'est pas capable de se parler, c'est la chicane toujours à la maison, ben moi je lâche prise. De toute façon, il va avoir 18 ans, ben qui s'organise, et ça on l'a vu beaucoup. On va parler justement et on va tenter de donner des idées pour pas s'arracher les cheveux avec nos ados, avec Nadia Gagné qui est psychologue. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Quand on parle d'adolescence, est-ce que c'est une des choses que les parents parlent le plus, pour qui c'est peut-être le plus difficile dans la période de vie d'un jeune?
Ben c'est une période difficile parce qu'elle met au défi notre capacité d'adaptation en tant que parents, puis on se concentre beaucoup sur nos difficultés et nos questionnements et nos doutes comme parents. Mais ce qu'on oublie, c'est que si c'est difficile pour nous, c'est parce que c'est difficile parfois aussi l'adolescence pour l'ado. C'est une période de grand changement, c'est une période de première fois. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'émotions pour l'adolescent. Puis comme on est les parents responsables de lui encore jusqu'au moins à 18 ans et même plus, ben ça se transpose sur nous, en fait. Ces sautes d'humeur-là, ce stress-là, il va peut-être pas autant le manifester à l'école devant ses amis, mais devant nous, il est pas gêné. Donc, c'est nous, parfois, les parents qui y goûtons.
On est le punching bag, finalement.
Un petit peu, des fois.
Ça ressemble à ça. Je parlais de certains parents qui finissent par même lâcher prise. Ça peut aller jusque-là.
Bien, c'est parce que c'est normal, des fois, qu'il y a des conflits, des désaccords. L'adolescent veut prendre de plus en plus de liberté. Il veut plus d'intimité. Donc, il veut plus de permission en donnant moins d'informations à ses parents. Fait que des fois, les parents, vous parlez de ceux qui lâchent prise. Puis il y en a, au contraire, ça les fait paniquer. Donc, ils recherchent, à l'inverse, un plus grand contrôle sur leur ado en limitant les permissions, en limitant l'élargissement des limites qui devraient être normales à cet âge-là. Puis là, ce que ça fait, c'est que l'ado perd confiance un petit peu à la capacité de ses parents à s'adapter à son développement qui se poursuit. Donc, comme il ne fait pas confiance, il en dit de moins en moins, parce qu'ils vont dire non de toute façon. Il fait de plus en plus de choses en cachette. Puis là, c'est ironique parce que par désir d'avoir du contrôle, on le perd. C'est ça. Il y a de l'autre côté les parents qui disent « Ah, moi, ça ne me tente pas de me chicaner avec lui. » Qui s'organise, puis il vivra, la vie lui apprendra.
Oui, c'est ça, les épreuves de la vie, puis il va finir par comprendre un jour. Moi, je passais par là quand j'étais jeune, puis bon, quand il tombera, il se relèvera si possible, mais ouais. C'est un peu ça que certains parents vont dire, là.
C'est ça. Puis moi, ce que je recommande, puis c'est vraiment une réponse de psy, c'est l'équilibre entre ces deux extrêmes-là. C'est-à-dire, les ados, le cerveau n'est pas encore complètement développé. Il est développé à 90 %. À 12 ans, là, il y a une bonne partie qui est là. Mais il y a encore toute la partie du cortex préfrontal qui continue de se développer jusqu'au début et même la mi-vingtaine.
Donc à 17 ans, c'est pas fini, là, cette affaire-là.
Non. Ils ont le droit de voter à 18, mais le cerveau continue à se développer encore un petit peu plus tard. Puis ce qui se développe, c'est la capacité à inhiber l'impulsivité, la régulation des émotions, la capacité de planification à plus long terme. Donc, on voit des fois des étudiants au cégep et à l'université qui étudient la veille d'un examen alors qu'ils auraient pu se préparer avant. Puis c'est normal. Donc, comme parent, il ne faut pas nécessairement prendre les petits conflits ou les différences d'opinion avec nos ados sur un plan personnel. C'est une phase de la vie qui est normale. Ils vont essayer de repousser un petit peu les limites, parfois de façon maladroite. Il ne faut pas oublier qu'ils doivent élargir leur cercle social aussi. Quand il y avait 8-10 ans, leur identité est un peu fusionnée à celle de leurs parents. Ils pensent un peu comme leurs parents, mais quand ils vieillissent, ils remettent en question tout ça. Et c'est une étape essentielle à la construction de l'identité. Mais ça veut dire que des fois, ils font exprès pour dire noir quand on dit blanc.
C'est sûr. Puis ils viennent chercher comme le petit bouton, là, des fois panique, là, comme graphing, là, pour comme que tu pognes les nerfs.
C'est ça. Fait que là, dans ce temps-là, il faut sortir, prendre une marche. Ou il faut comme essayer de dire, OK, c'est pas nécessairement moi qui est un mauvais parent, c'est la période qui commande ça. On a le droit aussi, des fois, à nos erreurs de parents. On a droit des fois de perdre les pédales parce que c'est vrai que ça vient nous chercher. C'est facile de dire tout ça pour les enfants des autres.
Oui.
Mais quand c'est notre enfant, ça vient nous chercher. Puis
je pense qu'il y a cette culpabilité-là aussi quand même beaucoup. Puis oui. On veut pas faire d'erreur, mais on dit, bon, oui, je veux être un parent intéressant, je veux avoir une belle relation, mais en même temps, il y a des choses pour qui, pour toi, c'est inadmissible. Donc, essaie de se trouver là-dedans, mais tu dis, ben, je veux pas y faire de la peine, mais en même temps, j'ai pas le choix d'une certaine façon parce qu'il faut que je suis un parent, donc il faut que je mette des limites aussi.
C'est ça, ils ont besoin de balises. Ce qui peut adoucir les choses, c'est s'ils ressentent qu'on cherche à les assouplir au fur et à mesure qu'ils grandissent, ces balises-là. Donc, il faut qu'il y ait des renégociations, des limites peut-être aux 6 mois, aux années, parce que l'ado de 15 ans, c'est plus le même que celui qui avait 12 ans. Là, il est rendu à une autre étape, puis il change extrêmement vite. C'est la période de la vie où on change le plus après le 0-2 ans. C'est pour ça que je dis, comme parents, ça remet en question, ça nous remet en question. Il faut toujours s'adapter au bon... C'est quoi qui va être à la mode cette année complètement? Ou quelle musique qu'il va écouter? Quel va être son groupe d'amis cette année? Est-ce qu'il va avoir des changements? Tout ça, sont difficiles à suivre parce qu'ils changent vite. Donc, il faut se remettre en question. Puis je pense que les erreurs qu'on peut faire comme parents vont passer mieux si on est capable d'avouer, hey, je me suis trompée. J'aurais peut-être dû te la donner, cette permission-là, un peu plus tôt. Mais là, je te la donne. Là, c'est peut-être tard, mais mieux vaut tard que jamais. Je m'excuse. Là, peut-être qu'on pourrait essayer. Tu sais, ça fait longtemps que tu me demandes cette permission-là. Ça fait longtemps que je te dis non, mais là, peut-être qu'on pourrait essayer, mais je veux que tu m'appelles. On met des conditions autour d'une nouvelle permission. On a le droit aussi de se donner un moment de délai avant de donner un accord à une demande de permission. Parce que des fois, ils arrivent avec des demandes de permission qui ont l'air d'arriver de nulle part. Là. C'est comme, OK, tu veux faire ça maintenant, c'est nouveau. Puis si c'est dans 2-3 jours, on va dire, OK, ben regarde, laisse-moi y penser, laisse-moi en parler à ton père ou à ta mère, laisse-moi te poser des questions. Ça va être où? Ça va être avec qui? Comment tu vas te rendre là? Bon,
oui.
On a le droit d'avoir des informations pour prendre notre décision. Puis si il demande cette permission-là 15 minutes avant l'activité, ben on a le droit, dans le doute, de s'abstenir puis de dire non, la prochaine fois, prends-toi d'avance parce que là, j'ai trop... un manque d'information. Puis quand on dit non, on peut dire non pour le moment. Parce qu'à 18 ans, il va faire ce qu'il veut.
Mais l'ado va dire, oui, mais pourquoi? Pourquoi? Non, mais pourquoi tu veux pas? Pourquoi? C'est ça, là, puis il lâchera pas.
Oui, mais il faut le dire. Pourquoi? Ouais. Puis ce qui peut être apaisant pour l'adolescent, c'est si on reconnaît le besoin caché, le besoin réel qui est caché derrière une demande qui est déraisonnable. Comme par exemple, s'il a 13 ans puis veut sortir dans un bar avec ses amis, là, on peut dire non, pas pour le moment, mais qu'est-ce que tu as de besoin? Qu'est-ce que tu irais chercher? Qu'est-ce que ça t'apporterait si je te disais oui? Bien, on serait entre amis sans parents, tu sais, sans les oreilles indiscrètes de nos parents qui voudraient nous moraliser quand on se met à parler de tel sujet, tout ça. Ah, bien, peut-être que ça peut s'arranger dans le sens où peut-être qu'on peut trouver un endroit, un lieu, une situation où vous pouvez vous retrouver ensemble, puis moi, je vais sentir que tu es plus en sécurité ou c'est plus adéquat pour ton âge. Veux-tu, on va chercher la solution ensemble ou l'alternative. Il va peut-être quand même bouder puis s'enfermer dans sa chambre en claquant la porte, mais ça fait rien. Le fait qu'on a ouvert on s'est ouvert à des possibilités, qu'on a reconnu qu'il y avait un besoin réel derrière sa demande, qu'il n'y avait peut-être pas trop d'allure à nos yeux, ça fait son bonhomme de chemin dans son esprit.
Il peut même s'il boude, même s'il ne nous parle pas, ça continue quand même.
Ben oui, parce qu'on montre au moins une ouverture. Puis on peut même reconnaître, je peux comprendre, c'est frustrant. C'est vrai qu'à ton âge, on est trop grand pour jouer avec des petites autos, mais on est encore trop jeune pour sortir dans des endroits où il n'y a pas d'adultes. Puis on est comme dans une période un peu, une zone grise qui est un peu plate parfois. On a besoin toujours de demander des lifts.
Ouais.
On veut sortir, on a besoin d'argent, mais on n'a pas encore l'âge de travailler pour gagner nos sous. On est toujours obligé de demander à nos parents qui parfois disent oui, parfois disent non, de valider l'émotion de frustration. Oui, c'est vrai que c'est frustrant. Ça n'enlève pas le fait qu'on dit non quand même. Mais il y a comme on enrobe le message d'une certaine compréhension de son état émotif. Donc, ça passe un peu mieux. Ça permet au moins d'éviter une trop grande dégradation de la relation parent-ado. C'est ça qui est important.
Oui, puis c'est pas ça qu'on veut non plus, parce qu'on sait à quel point le lien peut être extrêmement fragile à l'adolescence. C'est-à-dire, une journée, l'ado peut être hyper de bonne humeur, nous parler, se confier, être même protecteur, venir se coller et... Quoi, une demi-heure, une heure après, parfois, c'est le feu et l'eau, là. Ça arrête complètement. Donc, de garder ce lien-là, je pense qu'il y a beaucoup de parents pour qui ça peut être... C'est complexe, là.
Il faut cibler les moments où notre ado est ouvert au dialogue. Donc, c'est ça qui peut avoir les points d'intérêt qu'on a en commun avec lui. c'est un ado qui aime aller à la pêche, bien là, c'est l'été, ça peut être le fun de se planifier un petit week-end. Puis là, on va peut-être avoir accès à certaines choses de sa vie privée qui vont nous guider dans nos futures décisions. Des fois, je fais des blagues avec les parents, je leur dis la routine du dodo. Ben, les parents disent, bien là, ça fait longtemps que je ne chante plus des berceuses. Mais pas nécessairement tous les soirs, 2-3 soirs par semaine. Quand c'est l'heure à peu près qu'on sait que là, normalement, il éteint ses lumières, puis il s'apprête à s'endormir, on peut aller cogner à la porte, puis s'asseoir sur le coin du lit, puis avoir une petite jasette. Souvent, c'est des moments où, en fait, quand ils rentrent de l'école, souvent, ils lancent le sac à dos dans le coin de l'entrée de la maison, puis ils ne veulent pas trop nous parler. Puis des fois, c'est avant de s'endormir que là, ils peuvent nous déballer plein de choses qui s'est passé dans la semaine, qu'est-ce qui se passe avec des amis, tout ça, parce que nous tous, même les adultes, c'est souvent avant l'heure de s'endormir qu'on est plus introspectif.
Plus calme aussi, oui.
Oui, on a eu le temps de décanter notre journée. Ouais. On fait un peu le bilan de la journée. On pense à ce qui s'en vient le lendemain. Ils sont pareils. Donc, c'est un moment, des fois, où on peut s'essayer comme parents. Puis si même ils ne se confient pas, nous, on peut se confier. Hey, tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui au bureau. Puis là, une confidence en attire une autre, des fois. Ça peut être un bon moyen. L'autre chose, c'est les soupers en famille. Ça a des vertus protectrices au niveau de l'adaptation socio-affective des ados. Il y a des études même qui démontrent qu'il y a une corrélation entre les résultats scolaires et le fait de souper en famille plus souvent. Même s'il n'y a pas tant de dialogue que ça, ça donne un sens de cohésion familiale, ça donne un sentiment d'appartenance de l'adolescent à sa famille. Ça lui permet de constater que ses parents tiennent à ça.
Oui.
Donc, même s'il rouspète, ça ne tente pas, on dit, regarde, le reste de ta journée, je ne te vois pas, tu fais pas mal ce que tu veux, mais ça, j'y tiens le plus possible.
Ouais, c'est un moment qu'il faut garder aussi puis qui est ancré pour la famille. Et je sais que ça a une influence également pour la suite des choses. J'ai toujours mangé en famille, pas de télévision. Et aujourd'hui, ben, je recrée ça. Donc, j'imagine que l'ado qui fait ça aujourd'hui va probablement vouloir faire la même chose également plus tard. Là.
Exactement. Puis des fois, c'est ça. Ils passent, ils font un petit détour puis ils rouspètent contre certaines valeurs familiales. Mais parfois, quand on essaie de maintenir ce lien-là, au début de l'âge adulte, ça revient vers nos valeurs. Donc, ils ont fait un petit voyage, en quelque sorte, puis ils reviennent vers nos valeurs qu'on a tant à inculquer.
Il y a de l'espoir, je vous le dis, chers parents d'ados. 11h44, on poursuit la discussion avec Nadia Gagné, qui est psychologue. Vous pouvez d'ailleurs nous joindre si vous avez des questions, peut-être, sur votre ado. 1-866-790-9850. 514-790-9850. 11h47, on s'intéresse à nos ados. Comment faire, justement, pour rester patient, mieux les comprendre également et garder ce lien qu'on peut avoir avec eux? On est avec Nadia Gagné, psychologue, et on va prendre quelques appels. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous avez une ado à la maison.
Oui.
Qui a quel âge?
Une belle grande ado de 14 ans, bientôt 15.
Et, allô? Oui, la question que vous voulez poser à Nadia?
Oui. Est-ce qu'il y a une façon spéciale de parler à son ado dépendamment? Mmh. Moi, j'en ai trois. Puis, évidemment, ma fille, j'ai eu deux garçons. Puis les trois sont complètement différents, donc ma façon de les aborder, moi, j'ai l'impression qu'il faut que je sois trois pères différents.
Mais ben, moi, je trouve que c'est un bon signe que vous sentiez les choses comme ça, parce que c'est vrai que trois enfants issus des mêmes parents biologiques peuvent avoir des tempéraments complètement différents. Puis c'est pas juste le tempérament qui va influencer leurs attitudes, mais aussi ce que chacun d'eux peut vivre dans leur vie sociale et affective à l'école. Donc, les événements qu'ils vivent d'une journée à l'autre, ben ça fait fluctuer leurs émotions, leur humeur, mais ça les construit aussi. Un ado qui est sûr de lui, qui est bon dans les sports, il a un bon réseau social, ben il va peut-être être moins patient avec ses parents puis ouvert au dialogue, tandis que l'autre qui vit peut-être un peu d'intimidation, qui a des difficultés à s'intégrer, ça se peut que quand il arrive à la maison, lui, il t'apprend avec des pincettes parce qu'avec des parents, il se lâche lousse, comme on dirait. Donc, c'est pour ça, là, je dis peut-être pas des exemples qui sont pertinents à votre situation, mais c'est juste...
Est-ce que je peux apporter un petit témoignage?
Oui, allez-y, Jean-François.
J'ai fait un atelier il n'y a pas longtemps, c'était offert dans une école sur la Rive-Nord, et ça s'appelle la process-com. Et ça classe un peu les enfants en type, là. C'est pas une affaire miracle, mais moi, ça m'a aidé à comprendre mes ados, c'était de savoir comment ils étaient et comment leur parler. Donc, j'ai vu à ce moment-là, puis ma conjointe était comme ça avec ma fille, alors que moi, j'étais tout mielleux avec elle, tout doux. Moi, je suis plus du genre papa, compréhensif.
Le papa cool, là, c'est Jean-François,
oui,
c'est ça?
Oui, puis ma conjointe plus directive, puis ça, et elle obtenait des résultats 100 fois plus efficaces avec ma fille que moi. Et je trouvais ça, des fois, je la trouvais raide avec. Et j'ai changé tranquillement mon approche avec ma fille en étant un petit peu plus directif. Et elle ne sent pas du tout attaquée. Au contraire, ça fonctionne beaucoup mieux. Alors qu'avec mon plus vieux, qui lui m'arrivait avec des espèces de « Ah, oh, papa, hier, j'ai pris une brosse, puis pop, pop, pop », tu sais, pour me provoquer, puis moi, j'embarquais, puis tu peux pas faire ça, puis t'es bien irresponsable, puis là, la chicane pognait. Maintenant, je ris avec lui parce que je sais qu'il est un peu comme, dans ce que j'ai découvert dans la fameuse process.com, qui est un rebelle. Alors, comme mon fils est un rebelle, ben là, sa façon de m'approcher, c'est de me faire réagir. Et ouais. Là, lui, c'est sa façon d'entrer en communication avec moi. Et depuis que j'ai fait cet atelier-là, j'ai comme changé ma façon d'interagir avec, mettons, ces deux ados-là. Et ça va tellement mieux. Et c'est pour ça que je vous disais, ces trois personnes, j'ai trois enfants et trois enfants complètement différents. Donc, pas juste ce qu'ils vivent, mais aussi la façon qu'ils vivent. Fait que c'est pas une recette miracle, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme atelier.
Ben, en fait,
je voulais vous en parler.
Ben, c'est très bien parce que ce que ça démontre, en fait, c'est qu'il n'y en a pas de recette unique. Ce sont des recettes, en fait. Puis, comme parents, on n'a pas le choix, des fois, de faire des essais-erreurs pour trouver notre zone, en fait. Là, parce que là, vous avez visiblement fait des essais avec votre fille puis votre conjointe aussi. Puis là, vous avez vu que ça marche mieux avec elle que ce que je faisais. Puis vous vous êtes adapté. Mais c'est insécurisant pour les parents de devoir faire ça. Il y a bien des parents qu'ils voudraient être bons tout de suite.
Ouais.
Puis ils voudraient avoir un mode d'emploi. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Non, puis des fois, on le sait pas. Je pouvais pas savoir que la recette qui marche avec le numéro 2 marche mais absolument pas avec le numéro 3. Et inversement, le 3, le 1. Donc, c'est un petit peu... Et c'est pour ça que je vous dis, des fois, ça demande d'être trois papas. Puis, en tout cas, moi, ça a amélioré beaucoup. Si jamais il y a d'autres parents qui écoutent et qui ont... Est-ce que je peux plugger le...
Ben oui, bien sûr.
Oui, ben allez-y, oui.
Ça s'appelle secomprendre.ca.
Je pense que ça dit bien, oui.
Secomprendre.ca. Fait que, puis moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans mes relations avec mes trois enfants, en pouvant identifier, ah ben lui, c'est un rebelle, lui, c'est un rêveur, elle, c'est une promoteur. Et puis là, j'ai travaillé là-dessus. Puis tranquillement, en changeant ma façon de les aborder, ben une heure avec mon plus vieux, je ris. Quand il m'appelle, puis là, je ris de lui, puis là, je l'aime pas. Puis je l'accueille là-dedans. Et puis là, finalement, je désamorce. Avant, je réagissais, puis on se pognait.
Mais au moins, vous êtes capable de désamorcer. Mais merci beaucoup, Jean-François, pour votre témoignage. J'entends beaucoup d'humilité aussi.
Oui.
Parce que ça prend aux parents de dire, ben voici, c'est peut-être à moi à changer à ce moment-là, et pas tenter de changer autant mon ado. Parce que si moi, je change, peut-être que mon ado va comprendre. Je vais peut-être être mieux le recevoir aussi. Là.
C'est ça. Dans le fond, on se dénature pas comme parents quand on fait ça. C'est juste qu'on change l'approche. Et c'est un signe de capacité d'adaptation. Donc, c'est tout à votre honneur.
Nadia est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'ai une petite intervention, s'il vous plaît, parce que moi aussi, j'ai une adolescente de 16 ans et j'ai un petit peu de la misère avec depuis le début de l'été. Là. C'est comme si j'ai pris un enfant et j'ai mis un autre enfant. Là, ça a changé drastiquement.
Oh.
Et là, il a plus confiance en moi. À chaque fois que je lui dis quelque chose, non, tu mens. Elle me traite des gros mots et elle manque beaucoup, beaucoup de respect à moi. Ça, c'est venu me chercher. Ça m'a comme effacée parce que je suis une maman monoparentale. Je comble les deux rôles et le rôle du papa et le rôle de la maman. Et je suis rendue à un point où je suis devenue un petit peu épuisée avec la charge, avec beaucoup de choses. Fait que là, j'ai appelé aujourd'hui au moins pour savoir s'il y a des outils que je peux, me prévaloir pour au moins que je puisse, soit que je change moi-même, soit que je... Il y a d'autres approches qui peuvent m'aider à dealer avec ma fille parce que...
Il y a des ressources aussi,
trois jours, j'ai passé toutes mes journées à pleurer. Elle se rebelle. Je suis vraiment pas très heureuse dans cette situation-là.
Non, je comprends parce qu'en fait, c'est votre fille. Puis souvent, ben il y a tout un historique dans la relation mère-fille. Et puis quand ça se dégrade comme ça, quand la relation se dégrade, même si de l'extérieur, les gens peuvent peut-être essayer de dédramatiser pour vous encourager, quand on vit ça de l'intérieur, c'est gros de sentir qu'on perd un peu le lien avec notre enfant. Donc, je pense que l'important, c'est d'essayer de vous entourer de personnes qui peuvent vous ressourcer, sans négliger votre fille, essayer de vous rapprocher d'elle. Ça, c'est sûr qu'il faut continuer de faire des efforts en ce sens-là.
Elle me donne pas. Tantôt, vous avez parlé que le meilleur moment pour approcher nos enfants, c'est après le dodo. On peut faire se confier ou faire des confidences. Je me prévois même pas. J'ai même pas cette
opportunité.
Cette opportunité-là. Là.
Parce que la porte est fermée.
Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Elle me traite que je suis folle, que je suis. Que je suis vieux.
C'est un petit peu dans les extrêmes.
Ouais.
Ouais. Mais là, des commentaires qu'on entend d'ados, là. Vous n'êtes pas. C'est pas que vous, Nadia, qui vivez ça. Je peux vous le dire. Là, si on l'a déjà entendu. Puis il y a plein des parents qui vous écoutent, qui disent qu'ils vivent la même chose que vous.
Oui. Puis parce que c'est épuisant, c'est quelque chose qui peut, dans le fond, comment je pourrais dire, vider vos batteries, vider vos piles. Donc, c'est pour ça que comme adulte, comme femme, il faut trouver des façons de recharger ces piles-là. Donc, ça passe souvent par la confidence avec des amis, avec des proches qui peuvent à qui vous pouvez vous confier, dans le fond, qui vont vous refléter peut-être une façon différente de voir la situation.
Une autre réalité. Là,
une autre réalité. Ça peut être d'aller chercher de l'aide professionnelle aussi. Donc, ça peut... Même si votre fille ne veut pas d'être professionnelle, vous pouvez, vous, faire votre propre démarche au plan personnel pour vous reconstruire un petit peu, parce que ça vient même jouer parfois sur notre estime de soi. Quand nos ados nous rentrent dedans comme ça, là, on peut se sentir plus bon, inadéquat. Donc, il faut un peu se reconstruire là-dedans pour soi-même. Puis ça va aider probablement aussi la relation, parce que là, quand on devient émotif, des fois, il peut arriver des escalades dans le conflit aussi. On va gérer la situation de façon moins rationnelle. Donc, c'est bien important d'avoir un endroit, une personne à qui on peut confier tout ça et avoir des conseils. Ça peut être des fois des conseils d'amis, mais des fois, ça peut être aussi des conseils professionnels. Parfois, les gens me disent, je vais essayer de consulter au public ou au privé. Moi, je parle souvent des cliniques universitaires de psychologie où les listes d'attente sont parfois moins longues que dans le réseau public et les tarifs moins élevés que dans le réseau privé.
Ça peut valoir la peine pour Nadia qui est monoparentale, puis on peut comprendre quand tu travailles extrêmement fort, tu essaies de sortir la tête de l'eau, d'avoir une problématique. Mais évidemment, d'en parler, je pense que c'est le meilleur moyen pour Nadia et pour les personnes qui ont des difficultés avec leurs ados, mais de ne pas lâcher aussi.
Exactement. Ouais. De ne pas lâcher prise, parce que c'est ce que certains parents peuvent faire, puis elle a encore besoin de vous malgré les attitudes qui peut faire se sentir rejetée, en fait, qui peut faire en sorte qu'on se sente rejetée. Je pense l'adolescente a besoin que sa mère reste présente, dans le fond.
Donc, et on va toujours rester le parent de nos enfants, jusqu'à la fin, de toute façon. Donc, merci beaucoup, Nadia Gagné. Ça a été un plaisir. Psychologue, je le rappelle, également, que plusieurs livres aussi sur le marché, sur différents sujets. Merci d'avoir été là. Merci à toute l'équipe. Nous, on passe un bel après-midi, évidemment. Soyez là avec Bernard Drainville. Et nous, on se retrouve demain, mardi, 10h. Salut, bye.